Bonsoir à tous, bienvenue à la librairie Mola. Nathalie Aumont, vous êtes là pour nous parler de votre premier roman, Consolation, qui paraît aux éditions Arléa. En 1952, l'écrivain suédois Stig Dagerman écrit un article intitulé « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Un texte assez court qui est en somme une réflexion sur le sens de l'existence, sur notre rapport à la vie et donc à la mort, sur l'homme face au monde. Et cette année, donc en 2013, paraît votre premier roman. Un premier roman d'inspiration autobiographique qui évoque la mort accidentelle de votre frère, âgé alors de 18 ans. Ce roman s'appelle donc « Consolation » et je pense qu'on peut y voir aussi d'une certaine manière une forme de réflexion sur la vie, sur le deuil, sur comment appréhender l'existence, un chemin. Alors vous allez nous en dire plus évidemment, c'est l'histoire donc de Frédéric qui meurt à 18 ans et c'est sa sœur, l'aînée de la famille, une fratrie de trois, qui raconte. Elle a je crois 5 ans de plus que lui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces deux personnages et nous expliquer un petit peu les rapports qu'ils entretiennent entre eux, ce fils qui m'a l'air assez solaire hein, et cette narratrice qui se met un petit peu, qui est plus dans la pénombre, dans voilà, qui a quelque chose d'un peu plus dans la noirceur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu?
Donc, effectivement, Frédéric, un petit frère de 5 ans de moins, donc avec ce rôle de petit frère, de petit dernier. Et puis, effectivement, un enfant solaire. Partout où il passait, alors bon, c'est pas après qu'on l'a dit, mais partout où il passait, il amenait de la lumière, du soleil. Les gens se sentaient bien. Enfin, c'était un être, comme on les appelle, des êtres de lumière, sans vouloir faire de la spiritualité. Mais voilà. Et c'est vrai que moi, à côté, j'étais... Je suis la personne plutôt torturée, donc. Mais ils s'entendaient avec chacun. C'est ça qui est aussi important, c'est que donc nous étions trois enfants et des parents, et c'était le seul qui s'entendait avec chacun de la famille, sans heurts, sans conflits. Il avait ce pouvoir, cette capacité d'aplanir les choses. Donc forcément, quand il disparaît. Ça va être finalement un drame pour chacun de sa manière. Et bien sûr, en particulier pour ma mère qui l'appelait son soleil.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de terrible. Vous dites à un moment une phrase qui est terrible. Les parents ne sont plus des géants. Ça bouleverse complètement la famille. Vous parlez d'un bouleversement physique dans la maison et puis d'un bouleversement familial, en fait.
Oui, ça redistribue complètement les rôles, puisque on a une mère à ce moment-là qui ne peut plus finalement faire face à la vie d'une manière normale, un père qui tient tout ça de ses bras, qui peut pas vraiment s'épancher. Ce fait que les hommes ne peuvent pas toujours exprimer leur douleur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... en fait, c'est un peu de ça qu'est parti le livre. Parce que, finalement, dans ce genre de situation, la mère, forcément, est dans la douleur absolue. Et le père est là pour faire tourner la boutique, malgré tout. Et puis, alors, les frères et sœurs, alors, eux, ils sont paumés. Hein, ce sont des papillons qui se cognent, comme ça, je le dis, au chagrin de leurs parents, et qui ne savent absolument pas quoi faire. Et qui d'ailleurs sont invisibles à ce moment-là, parce que la douleur des parents est complètement tournée vers cette disparition, et ils ne se rendent pas compte que les enfants, les frères et sœurs, souffrent. C'est une douleur qui est moins dite, la douleur des frères et sœurs. Et ce que je dis dans mon livre qui a été très difficile, c'est de voir tous ces messages de condoléances qui étaient adressés uniquement à mes parents. Comme si nous, et on ne sait plus où se mettre, simplement. Et puis on se dit, qu'est-ce que je peux faire, quoi.
Voilà, et alors la première chose qui vient à l'esprit de l'héroïne, c'est consoler. La culpabilité, le malaise, la tristesse, évidemment, et après, consoler. C'est de l'ordre de l'élan vital, en fait, consoler ses parents.
Ah, mais c'est certainement une tâche impossible, vu l'événement, mais c'est la seule attitude qu'on peut avoir. Tout en sachant que la consolation ne peut pas être complète. Et ça, finalement, avec ce livre, je crois que c'est ce que j'ai accepté. C'est-à-dire d'être dans la de consoler, tout en sachant que je ne pourrais pas faire revenir mon frère, je ne pourrais pas effacer les larmes de ma mère. Mais c'est aussi montrer quelque chose de qui va vers la lumière quand même, malgré ce drame. Il doit en sortir des choses. Si c'est gratuit, en plus, ça devient insupportable. Et effectivement, c'est physique aussi. Je pense qu'on est complètement transformé. Il y a quelque chose, à mon avis, même de physiologique qui se passe. C'est un tel choc. Je pense que le cerveau change, devient plus sensible, plus... Voilà, il y a vraiment, je pense, une transformation physiologique. Voilà, c'est le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Et puis, c'est vraiment... L'accident de voiture, je crois que ça parle à tout le monde. Enfin, c'est vraiment les choses qui arrivent dans la vie, évidemment, sans qu'on les prévienne. Et c'est une brutale absence, comme le signait dans Sud-Ouest, là, l'article de dimanche. C'est foudroyant. Et c'est pour ça qu'il a fallu du temps avant que le livre puisse s'écrire. Parce qu'il y a tout un chemin qui se fait depuis la sidération de l'inacceptable. Et puis la peine qui va... petit à petit s'atténuer, et puis qui va permettre à un moment donné d'écrire. Mais 23 ans, il a fallu 23 ans pour que, effectivement, ce soit possible.
Alors justement, vous vous lancez, par contre, il y a quelque chose qui est écrit à la mort du frère, mais ce n'est pas un roman. C'est la narratrice, elle se lance dans un mémoire de 200 pages sur la patrouille de France. Il faut expliquer en fait que Frédéric, c'était quelqu'un qui se destinait au métier de pilote d'avion. Et en fait, à sa mort, il y a un rêve familial qui s'arrête net, puisque l'aviation, le ciel, c'était quelque chose qui faisait rêver le père, l'oncle. Il transmettait quelque chose, en fait. Il était dans l'écriture, oui, du roman familial.
Voilà, il couronnait un roman familial. Enfin, on allait avoir un vrai pilote dans la famille, après avoir eu des personnes qui essayaient de faire décoller des maquettes, d'autres qui étaient trop grands, trop myopes, etc. Et c'est vrai que... mon père a perdu son fils et il a aussi perdu son rêve là-dedans. Et pour moi, enfin, ça a été terrible, effectivement, parce que c'était en plus quelques jours après avoir été macaronné pilote. C'était juste après.
Et l'écriture de ce mémoire, alors, du coup, sur la patrouille du France, c'est quoi ? C'est se libérer de quelque chose, continuer à faire revivre son frère, c'est plaire au père.
Voilà, aussi. Moi, c'était pour mon père, oui, parce que je savais que... Enfin, je me disais, il faut que je laisse une trace, déjà. Donc, maintenant, c'est livre.
C'est une trace.
Mais à l'époque, c'était le mémoire sur la patrouille de France. Ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça, il fallait que je parle de mon frère. J'avais peur que même le souvenir s'efface. Et puis, et c'est vrai que ça a été immédiat. Enfin, dans les quelques jours, je devais faire une maîtrise d'histoire à Bordeaux sur les suffragettes, enfin, un truc comme ça. Et puis là, tout à coup, je me dis, c'est pas possible. J'arrive à trouver in extremis un directeur de mémoire à Paris. Et je me lance là-dedans. Et du coup, pendant un an, je ne vais pas éprouver le deuil. Parce que pendant un an, j'écris sur mon frère. J'ai l'impression qu'il est avec moi. Je me déplace beaucoup. C'est un an après, une fois que ce mémoire est soutenu, que là je vais m'écrouler. C'est plutôt, voilà, c'est un an après le décès que moi je vais m'écrouler. Parce que pendant un an, j'ai été portée par quelque chose qui m'apparaissait de l'ordre du devoir. Voilà. Et puis je sais pas comment j'aurais pu écrire à ce moment-là sur autre chose, de toute façon.
Et c'est aussi, finalement, prendre peut-être pas le flambeau de ce qu'a fait votre frère, mais c'est encore une fois travailler autour de l'aviation, c'est essayer de plaire aussi à votre père.
Oui, dans ma famille, on est les filles, c'était plutôt le rêve de l'hôtesse de l'air. Hein. Donc là, c'était... j'ai remis un peu le pilotage au centre.
Non, moi, je me demandais, est-ce que finalement, dans ce livre-là, on ne peut pas y lire aussi un roman sur le besoin d'une reconnaissance d'une fille par son père ?
Bah, écoutez, parce qu'on va beaucoup tourner autour de ça, c'est normal, puisque le livre, au départ, il devait s'appeler « Cette nuit, j'ai rêvé que mon père dansait ». Donc, c'était clair dans ce titre que c'était quelque chose qui avait un gros rapport avec le père. Puis bon, voilà, l'éditrice, on a négocié plusieurs mois pour voir, dans un dialogue évidemment, et finalement je me suis dit, c'est son métier, je vais la laisser choisir. Mais Ce livre, c'est d'abord consoler mon père. Et c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte que la consolation, finalement, elle était multiple. Elle allait de moi vers lui, de moi vers mon frère, de lui vers moi. En fait, chacun console l'autre, enfin, essaye de consoler l'autre. Et finalement, c'est vrai que le titre, donc consolation, il est plus, il est plus ouvert. Mais effectivement, le livre a démarré par un rêve. Je me suis réveillée un matin et j'ai dit cette nuit, j'ai rêvé que mon père dansait. Et ça a été le signal de l'écriture. Je me suis dit voilà, je suis prête. Et je suis partie et voilà.
Mais parce qu'il y a la scène inaugurale aussi de ce roman, qui, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu plus. C'est cette scène qui, quand on la lit, nous paraît complètement à côté de l'histoire et qui finalement a un sens très fort, moi, je trouve, dans ce texte, hein, si on se base plus sur les rapports justement entre le père et la fille.
Vous voulez dire au moment où
cette promenade en voiture, en fait, cette promenade à pied faites, ce retour en voiture assez brutal. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette scène?
J'ai pas beaucoup de mémoire, mais il y a des scènes comme ça qui restent pour toujours. Et c'est vrai que c'est un de mes premiers souvenirs. Et ce sont des scènes, en fait, quand je parle de mémoire, c'est des scènes où vous pouvez immédiatement, avec un peu de concentration, de recueillement, il suffit d'en parler, puis vous ressentez tout de suite l'émotion. Tout est complet. Ce n'est pas altéré. On retrouve immédiatement la même vibration de la scène. Et puis ça représente la scène de bonheur, quoi, avec un père et une fille. Et c'est l'image du bonheur. Pour moi, mon père à ce moment-là, voilà, c'est l'homme heureux qui siffle, voilà, qui est.
C'est un rapport, un instant privilégié aussi entre un père et une fille.
Oui.
Oui, à la fin, donc du coup, vous partez tous les deux récupérer une voiture, tout simplement. Hein. C'est une scène anodine, mais il se passe quelque chose. Il y a une ambiance, il y a quelque chose d'un peu magique autour de l'enfance, de l'amour maternel, enfin paternel. Je pense, oui. Et tout d'un coup, la voiture est récupérée chez le garagiste et vous rentrez. Et voilà, c'est fini.
Oui. Ben, c'est des instants de grâce et par définition, ils ne peuvent pas être éternels. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est l'enfance, c'est le bonheur. Ça peut être résumé rien qu'à travers ce petit passage. Après, il y a plein d'autres choses, mais voilà, ça résume bien ce qu'une petite fille de 6 ans peut imaginer du bonheur d'être avec son papa sur une route, enfin, cet âge de l'innocence.
Oui, donc un roman sur le deuil, sur la perte d'un frère, sur la vie aussi. Un chemin de vie, je pense qu'on peut dire. Un roman sur la famille aussi, évidemment. Mais il y a quelque chose aussi, je pense, assez fort de la manière... Enfin, comment appréhender l'existence, comment vivre avec un chagrin, mais comment vivre tout court. À plusieurs reprises, vous parlez de cette... Enfin, vous donnez des pistes de réflexion. Page 17, « Vivre est dangereux, faut-il cesser de vivre ?» Puis un peu plus loin, la narratrice parle d'une posture particulière, celle de danser au-dessus du vide. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ça, de cette posture-là?
Oui.
Alors, vous avez adopté, a priori.
Oui. Dans mon livre, mon père apparaît, c'est comme ça qu'il est. Il est extrêmement angoissé. J'ai été élevée avec la peur de se faire mal, la peur de tomber, la peur de tout. Et mon père est toujours comme ça. Malgré l'accident qui a montré la vanité de l'inquiétude et puis de la protection d'un parent, on ne peut pas protéger complètement. Il faut laisser vivre. Et alors, avec mes enfants, je le fais. Mais enfin, je fais un peu la maligne quand même, parce que moi aussi, je suis très angoissée. Et moi aussi, je envoie des textos. Moi aussi, je m'inquiète. Mais c'est vrai que, vous savez, quand on écrit, après, il y a des choses qui viennent. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ce domaine-là. Il y a des gens extrêmement prudents à qui il arrive de terribles malheurs. Et puis, il y a des gens qui, vous avez l'impression que, voilà, qui jouent dans la vie sans se poser aucune question. Puis, ils arrivent à 90 ans. Donc, je pense que ça sert à rien et qu'il faut laisser ses enfants vivre.
Et danser au-dessus du vide.
Et danser au-dessus du vide, ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai fait un moment après la mort de mon frère. Et puis, c'est quand j'ai eu mes enfants que j'ai changé et que j'ai recommencé à m'inquiéter de la vie. Mais jusqu'à ce que j'aie mes enfants, je me disais non, c'est pas grave tout ça. Et puis bon, ce livre aussi, c'est parce que moi, mon frère, j'ai quand même fait un deuil assez rapide par rapport à l'horreur de la situation, parce que on s'est quitté avec tellement d'amour et dans un tel rapport de complicité, etc., que je me suis très vite dit, s'il était là, il voudrait que je vive, que je... C'était pas lui. Mais par contre, effectivement, ce qui était insupportable, c'était la douleur de mes parents, quoi. Ça, c'est... j'arrivais pas à faire ce deuil-là. Et c'est quand je pensais à cet événement, c'est ça qui me hantait. Qui me hantait jusqu'à ce que j'écrive le livre. Mmh. Et ça va mieux, il me semble, quand même, globalement. Mmh. Mais... je pense qu'il faut... on me dit, oui, le livre, c'est une thérapie, etc. Sans doute que ce livre me console, moi aussi. Mais si j'ai pu l'écrire, c'est d'abord parce que moi, j'avais fait mon chemin aussi.
Bien sûr.
Autrement...
Bien sûr. Voilà. Et comment s'est passée cette écriture, justement ? Ça s'est fait dans le chagrin, dans la sérénité c'était Alors, difficile, c'était éprouvant ?
Pas du tout. Contrairement à mes lecteurs, je n'ai pas versé une larme. J'ai été dans un état particulier. Ça faisait 23 ans que je préparais, enfin que j'avais déjà essayé de le lire, de l'écrire. J'avais pas réussi. Et quand je me suis réveillée, que j'ai mis ce titre et puis que j'ai commencé à écrire, ben écoutez, ça a coulé, quoi. Il y a quelque chose qui était là depuis longtemps et qui voulait sortir, qui était prêt. Et je me suis sentie quelque part reliée. Ça venait, quoi. Je veux dire, ce livre-là, je pense que les suivants seront plus difficiles certainement, mais celui-là, il a coulé tout seul. Ça a été comme d'un Ben voilà, c'était prêt, quelque chose, il y avait eu un déclic, et puis voilà. Donc j'ai travaillé, bon c'est un petit livre, mais j'ai travaillé toute seule pendant 3 mois, sans en parler à personne, et surtout pas à mes parents. Mmh. C'était aussi un acte d'émancipation, poser son regard sur l'histoire. Il n'était pas question de faire lire pour qu'on me dise « Ah ben non, mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. » Ou... Parce que je n'ai rien vérifié. Il y a peut-être... C'est pour ça qu'on me dit « c'est pas un roman. » Mais en même temps, il n'y a pas d'exactitude. Je n'ai rien vérifié, aucune date, rien. Je le dis à un moment donné. J'ai écrit ça dans la solitude complète et sans en parler à personne. Et puis au bout de 3 mois, quand même, je l'ai fait lire à 2 personnes pour avoir un regard extérieur. Je l'ai retravaillé. Et puis voilà, c'était... Voilà, il y a des choses, qu'on fait vite parfois.
Mmh, mmh. Et on a un test qui est quand même assez court, assez épuré. Comment ça s'est passé ? Vous aviez écrit beaucoup et puis petit à petit, vous avez enlevé des passages ? Ou au contraire, c'est un test qui s'est étoffé ? Comment vous êtes partie ?
J'étais un peu obsédée par le nombre de mots et de pages. Mmh. J'avais ça sur mon écran et je me disais, waouh, est-ce que ça peut faire un livre ? Et puis bon, quand je l'ai envoyé à l'éditrice, elle m'a dit, ben, y a 2-3 petites choses à enlever qui alourdissent le texte. Et moi, j'étais paniquée, je me disais, mais il va rester quoi à la fin ? Mmh. Il va rester un titre, il n'y aura rien dedans, ça s'appellera Consolation. Et puis, donc, bon, c'est un peu bête, hein. Elle m'a dit, mais bon, on s'en moque du nombre de pages, c'est pas... C'est vrai que voilà. Donc j'ai finalement peu retravaillé le texte, enlevé quelques petites choses. Et puis, et ce qui est drôle quand même, c'est que la dernière page, enfin le dernier petit chapitre, a été écrit après l'envoi du manuscrit.
Ah bon ?
Justement, l'éditrice m'avait dit la fin, le dernier chapitre, c'est... Et je me suis servie de quelque chose qui venait de se passer.
D'accord.
Pour réécrire la fin, pour réécrire une fin. Ce qui montre que un livre toujours vivant, finalement. Et voilà, il peut être amendé jusqu'au dernier moment. Et puis, il reste vivant parce qu'il y a cette rencontre avec les lecteurs et que chacun le fait vivre à sa manière, en résonance avec sa propre histoire.
Vous dites que vous avez attendu 23 ans pour l'écrire. Votre frère est mort, vous aviez 23 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'une boucle s'est bouclée ?
Oui.
Votre fils a 18 ans.
Ouais. Mmh. Oui, mon fils a 18 ans. Non, mon fils a l'âge de mon frère quand il lui est arrivé cet accident. Donc forcément, on y pense un peu, mais bon, voilà. Ça me débarrasse quand même de choses, de soucis, d'inquiétudes, d'angoisses. Ben, oui, le mettre en mots, toujours. Ça permet de prendre une distance. Et puis vraiment, je crois sincèrement qu'on ne peut rien faire. Hein. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir, mais là, en l'occurrence, Heureusement qu'il n'y a pas eu en plus la culpabilité.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Et donc un roman. Vous avez choisi dès le départ d'écrire un roman plutôt qu'un récit. Quelle est votre posture par rapport à ça? Vous m'avez dit, bon, j'ai pas voulu vérifier, etc. Mais ça s'est imposé à vous comme ça.
Bah, en fait, j'ai écrit, je me suis pas demandé ce que c'était. Hein. Je pense que si, enfin, au bout de 23 ans, ça veut dire qu'on a énormément... ça fait longtemps que c'est en nous, que ça, voilà, qu'il y a quelque chose de chimique, d'alchimique qui se passe, et puis que finalement, de toute façon, ce qui est écrit, est-ce que c'est encore un récit? Enfin, il y a plein de choses que je ne dis pas, il y en a que j'évacue, il y en a que sur lesquelles j'insiste. Enfin, moi, après le livre, j'ai eu l'impression que finalement, c'était à la fin, que c'était des petites scènes qui pourraient presque faire à chaque fois un petit tableau, des petites scènes. Oui. Donc, c'est pas un récit linéaire. Et ensuite, eh ben écoutez, après, c'est le monde de l'édition. Premier livre, si vous appelez ça premier récit, je crois que... Je ne sais pas si ça existe dans la presse. Tandis que premier roman, c'est une appellation de toute façon, hein, dans le monde de l'édition, dans le monde de la rentrée littéraire. Ça permet d'être remarqué dans certains articles, dans certains médias. Et puis, effectivement, c'est sûr, c'est fortement autobiographique, mais ce n'est pas... je ne sais pas ce que c'est.
C'est Deleuze qui disait, voilà, il y a la petite histoire, mais finalement, derrière ça, il y a aussi dans la littérature, au-delà de la petite histoire, il y a toute cette dimension universelle qui passe. Je pense qu'on est là-dedans.
C'est ça. C'est partir de son histoire et puis entrer en résonance avec chaque lecteur. Et autrement, oui. Autrement, ce n'est pas. Autrement, c'est un journal intime.
C'est ça.
Bon.
Et est-ce que pour vous, pour entrer dans la littérature, il fallait obligatoirement en passer par là, écrire sur la mort de votre frère?
Je crois que c'est évident.
C'était évident.
Il fallait que ça se soit fait, parce qu'autrement, je pense que ça aurait parasité tout ce que j'aurais pu écrire après. J'espère que j'arriverai à écrire plusieurs autres livres, et celui-là, effectivement, ce sera le début, enfin le livre inaugural. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit peu avant aussi, parce que tant que ça n'a pas pu vraiment sortir, ben par contre maintenant j'ai plein d'autres choses à écrire, mais il fallait commencer par ça, bien sûr.
La voie est libre donc pour un deuxième roman. Vous êtes déjà
Alors je travaille. Mais tant qu'il n'est pas terminé, il n'existe pas, donc je ne vais pas en parler.
Bien sûr, non.
Oui, voilà, non, après, bon, ce sera complètement différent.
D'accord.
Voilà.
Bon, n'en dites pas plus. Est-ce que la lecture vous a aidé? Est-ce que vous avez puisé dans d'autres romans pour avancer dans ce texte-là?
Alors, je suis une grande lectrice, hein, évidemment, enfin, c'est... Voilà, la littérature en numéro un dans ma vie, enfin, à part, bien sûr, les gens, qui sont encore toujours plus importants que tout. Mais, donc, je lis beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai arrêté de lire. Là, il fallait que je trouve ma propre voie.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que là, en ce moment, je relis beaucoup pour m'imprégner, effectivement, de plein de choses. Mais au moment où j'ai écrit, non, je ne pouvais plus lire. Voilà. C'était uniquement de l'écriture. Après, non, je ne pense pas qu'il y ait... Un roman ou un livre qui... Il y en a plein. Et puis pendant l'écriture, si j'ai lu le Bhagavad Gita, qui est un livre du Mahabharata, la grande épopée indienne, puisque je parle de l'Inde à un moment donné. Et c'est vrai que voilà, j'ai lu le Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, dont le message est il faut accomplir l'action juste et ensuite se détourner des fruits de l'action. Donc pour un livre, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut écrire le livre qu'on a envie d'écrire. Et puis après, le succès, les articles, ben, il faudrait, si on était sage, pouvoir s'en détacher parce que c'est voilà, accomplir l'action juste.
Justement, comment ça se passe? Comment vous avez vécu cette publication? Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières de vos proches? Comment le livre vit maintenant?
Oui, alors mes parents l'ont découvert au moment de sa sortie. Parce que voilà, c'est pareil. J'avais un petit peu peur, mais je me doutais bien quand même que ça leur plairait. Parce que je vois pas ce qui. Enfin, la seule chose dont j'avais peur, effectivement, un petit peu, c'est que je mets beaucoup mon père à nu, au niveau de ses émotions. Mais je pense qu'il a été très content, parce que finalement, comme c'est quelqu'un de très pudique, il n'aurait jamais pu le dire lui. Et là, il a quelqu'un qui le dit à sa place. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui les connaissent depuis pas très longtemps, certains, et qui étaient complètement, qui ne connaissaient pas du tout l'histoire, parce qu'ils n'en parlent pas. Donc, c'est lui redonner un peu, c'est lui donner la parole. C'était quoi la question ?
comment ils ont réagi à l'apparition de ce livre ?
Alors, oui. Ils m'ont dit que ça allait... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'effectivement, c'était douloureux. Enfin, dont eux, évidemment. Il n'est pas long, le livre, mais ils ont dû le lire en plusieurs fois, quand même. Mais à la fin du livre, il y a quelque chose du domaine de l'apaisement, de la consolation, justement.
Bien sûr.
Apparemment, bien sûr. J'ai l'impression que ça a quand même changé quelque chose, oui. Pour eux, pour moi, pour les relations à l'intérieur de cette famille amputée. Ça, je crois que ça a fait quelque chose, mais c'est encore récent, alors je peux pas dire si ça durera ou pas. Voilà. Et puis non, il y a juste un truc qui m'embête, c'est que les libraires me disent que c'est un livre qui est pas facile à vendre, parce qu'évidemment, quand on regarde la quatrième de couverture, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais en ce moment, je préfère pas lire ça, ou je me sens un peu fragile, ou j'ai perdu quelqu'un il y a pas longtemps, etc. » Et moi, je leur dis, mais ça s'appelle consolation. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais bon, tant pis, ça s'inscrira dans la durée.
Exactement.
Et puis, par contre, une fois que les gens ont fait la démarche de l'ouvrir, comme beaucoup de personnes l'ont acheté par sympathie au départ pour moi, des jeunes, des amis, etc. Ils l'ont lu par politesse au départ ou par curiosité. Et finalement, ils m'ont dit, oui, c'est vrai que c'est pas noir. C'est le début qui est une scène effectivement très difficile. Mais bon, voilà, ça permet de mettre des mots. Il y a des gens qui se sont évidemment reconnus dans plein de choses. Et puis, voilà, c'est sûr que c'est pas un livre évident. Mais.
Ouais, mais des livres évidents, il y en a beaucoup. Et finalement, voilà, qu'est-ce qui.
Je ne vous fais pas
dire. Faut des livres qui restent aussi. Faut des livres qui font avancer. Je crois que ce roman, Consolation, fait partie de cette littérature-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses.
Merci.
Et puis, on souhaite une belle continuation à ce roman. Et puis, à vous. Et à tous nos encouragements pour ce deuxième roman qui est en train de s'écrire.
Écoute, j'espère qu'on se reverra ici, à ce moment-là.
Donnons-nous rendez-vous, effectivement, pour le deuxième. Merci.
Et j'ai encore le son, là. Non, je voulais commencer par ça, puis vous voyez l'émotion. Je voulais tous vous remercier d'être venus ce soir soutenir ce premier roman. Voilà.
Merci à vous, effectivement, d'être venus. Alors, est-ce qu'il y a des questions, justement, dans la salle ? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, réagir ?